Les humanités dans le texte sont aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle de Lille, dans la grande salle, qui est une sorte de galerie de l'évolution, un peu comme celle que vous pouvez trouver à Paris ou à Londres. Nous sommes entourés de fossiles de lynx, de grillons et de criquets vivants à ma droite, de mygales à ma gauche, les unes se nourrissant des uns, je vous laisse deviner dans quel sens. Nous sommes sous des squelettes de cétacés, dans un cadre très impressionnant, pour un podcast consacré à la figure de Maria Sibylla Merian, à la fois femme de science et artiste de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, puisqu'elle mit son talent de dessinatrice au service de sa curiosité de naturaliste, curiosité qui la poussa jusqu'au Suriname, où elle entreprit un voyage en 1699. Ce voyage, ou plutôt le livre auquel il donna la matière, Metamorphosis Insectorum Surinamensium, la métamorphose des insectes du Suriname, nous en parlons aujourd'hui avec un collectif d'enseignantes et de passionnées de latin, composé d'Océane Puch, Séverine Clément-Tarantino, qui n'est pas avec nous, mais qui le sera, en duplex, si j'ose dire, Clémence Cogé, Cécile de Rouzier-Gonsalve, et je m'arrête là. Pour votre travail sur Maria Sibylla Merian, vous avez aussi fait appel à d'autres personnes que je vais nommer maintenant, Stéphane Fimbel, professeur de SVT au lycée Gambetta de Tourcoing, José D'Andrea et Sophie Dinalo, Muriel Lecouvez et Vincent Gaverio. Je ne donne pas vos titres dans le détail parce que sinon ce serait trop long, mais disons que vous avez en commun d'être professeur de lettres classiques en collège ou en lycée. Et Séverine Tarantino est maîtresse de conférences en langue et littérature latine à l'Université de Lille. Nos auditeurs doivent savoir tout de suite qu'ils peuvent retrouver le fruit de votre travail, non pas sous une forme audio, mais sous une forme textuelle, sur la plateforme Odysseum du ministère de l'Éducation nationale, pour un dossier qui s'intitule « Le voyage au Suriname d'une autrice, illustratrice et scientifique du XVIIIe siècle, Maria Sibylla Merian ».
Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres.
Clémence Cogé, pourriez-vous commencer par nous dresser à grands traits un portrait de la femme singulière qu'était Maria Sibylla Merian?
Alors cette femme, c'est une illustratrice et naturaliste qui a travaillé toute sa vie, depuis son enfance, sur la métamorphose principalement des papillons et la métamorphose aussi des batraciens. Pour ce faire, elle a élevé des spécimens depuis son plus jeune âge, elle les a dessinés, elle les a étudiés dans des cabinets, et puis ensuite elle est allée sur place au Suriname pour aller en observer. Elle est revenue au bout de 2 ans de voyage, et puis 4 ans plus tard, elle a produit le livre sur lequel nous avons travaillé.
Donc une grande œuvre par sa postérité et par son format, parce que nous avons la chance de l'avoir là sur la table à côté de nous, dans un format gigantesque, hein, c'est du A3 au moins, et c'est magnifiquement illustré. Cette œuvre s'intitule
Metamorphosis Insectorum Surinamensium.
Ça veut dire donc la métamorphose des insectes du Suriname. Suriname,
tout à fait. Ce sont 60 planches illustrées. Et la caractéristique, on entend les pages qui se tournent, mais c'est d'avoir à chaque fois le dessin, la planche, et puis à côté le texte. Et le texte traduit d'emblée à sa sortie en néerlandais et en latin. C'était un souhait de l'autrice de le sortir en néerlandais et en latin, pour une plus grande diffusion, puisque son premier ouvrage, lui, il avait été diffusé en allemand, et il est et les insectes d'Europe, alors il y a plusieurs surnoms, mais c'est ce premier ouvrage, elle l'avait fait paraître en 1679, et en langue allemande, il avait moins de diffusion.
Oui, parce lapsus, était l'anglais de l'époque, la langue scientifique en cours, en usage en Europe. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite, en feuilletant les premières pages de ce livre, que Maria Sibylla Merian ne choisit pas entre l'art et la science, comme on le dirait aujourd'hui. Dans notre monde, on a très longtemps divisé ces deux formes d'exercice de l'esprit, puisque chacune de ces illustrations est aussi précise techniquement qu'intéressante esthétiquement.
C'est assez merveilleux, en fait, comme dessin, parce que, et c'est très original aussi à son époque, c'est que non seulement il y a l'animal, mais il y a aussi la plante hôte, tout ça dans une scène qui représente parfois plusieurs étapes de l'évolution de la bête, de l'œuf, parfois, à la chenille, en passant par la chrysalide, et puis en allant jusqu'au papillon. Et ça, c'était aussi original. C'est une démarche qu'elle avait lancée dans son premier ouvrage, avec le ver à soie, notamment. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment... Du coup, ça donne des scènes extrêmement vivantes qui sont en plus travaillées, extrêmement travaillées, puisque ce sont des gravures. Donc, il y a un travail sur la couleur, il y a un travail sur le trait. Enfin, c'est très beau. Et en plus, c'est très intéressant scientifiquement parce qu'elle a observé vraiment les animaux et que ça se voit, en fait. Et elle, en plus, elle le commente dans le texte.
On va y revenir quand on commentera le texte qu'on va lire ensemble. Entrons tout de suite dans la matière de ce texte en écoutant la lecture à deux voix de Séverine Clément Tarantino pour le texte latin et Océane Puch pour la traduction française, traduction qui a d'ailleurs été réalisée collectivement, de l'Explicatio de la planche 53.
Cum aliquando in deserta et in inculta loca essem longius egressa, inter alias etiam reperi arborem altissimam, quae mespilus ab incolis vocatur.
Un jour que je m'étais aventuré plus loin dans des endroits déserts et non cultivés, j'ai trouvé, parmi d'autres, un arbre très haut que les locaux appellent mespilus, néflier.
Apposita flavescens eruga hic a me reperta est. Per totius corporis longitudinem striis roseis erat ornata. Capite fusca, quattuor nigris aculeis in uno quoque segmento armata. Pedibus itidem rosseo colore picta.
La chenille jaune ici présente, je l'ai trouvée sur cet arbre. Sur toute sa longueur, elle était parée de rayures roses, avait la tête foncée. Sur chaque segment de son corps, elle était armée de quatre pics. Ses pieds aussi étaient de couleur rose.
Domum translata, brevi in aureliam lignei sub albidi coloris transfigurata est. Veluti inferius ramulo arboris imposita conspicitur.
Quand je l'eus ramenée chez moi, en peu de temps elle se transforma en une chrysalide couleur de bois beige, comme on le voit sur celle qui est dessinée sur le rameau inférieur.
Quatuordecim dies post, circa finem mensis januari, anno millesimo septingentesimo, hinc elegantissimus iste erubit papilio.
14 jours plus tard, à peu près à la fin du mois de janvier 1700, en a surgi le plus élégant des papillons que vous voyez là.
Politum ille aemulatur argentum, coi ruleo longe nitidissimo colore vestitus, viridescens purpureus immo totus quantus formosissimus, ita ut neque calamus descripere, neque penicillus imitare valeat eius venustatem.
Il rivalise avec l'argent poli. Il est drapé d'un bleu absolument resplendissant, avec des reflets verts, pourpres. En un mot, il est tout entier tellement beau qu'aucune plume ne saurait le décrire, ni aucun pinceau imiter sa grâce.
Merci Séverine Clément Tarantino et merci Océane Puch pour cette belle lecture. On peut encore une fois noter que la description, de la même façon que le dessin, allie des commentaires naturalistes à des réactions émotionnelles et esthétiques.
Oui, tout à fait. En fait, la démarche de Maria Sibylla est la même pour chacune des planches, c'est-à-dire qu'elle commence d'abord par décrire le végétal sur lequel se développe la chenille, puis le papillon. Et ensuite, il y a une description précise de la chenille, alors une description qui est parfois admirative, parfois plutôt amusée. Il y a une attention particulière aux détails et un émerveillement constant de ce qu'elle peut observer. La démarche scientifique, elle est constatable aussi avec les détails en termes de dates sur cette planche-là, mais c'est le cas aussi dans d'autres dans l'œuvre. Les dates sont particulièrement précises, en fait. On a l'impression de lire le carnet de bord de Maria Sibylla. Et après, ce qu'il y a de remarquable, c'est justement l'attention portée à la couleur, l'attention portée également aux résultats, au passage de la chenille à la chrysalide et ensuite de la chrysalide au papillon, avec alors ici clairement une admiration sans borne pour le papillon qui est sorti. Elle est extrêmement emphatique en fait dans cette description. On parle du plus élégant des papillons. Il faut savoir quand même que dans d'autres passages de la dissertatio, elle peut être déçue aussi de la métamorphose. Et parfois, voilà, elle est admirative d'une chenille et puis finalement, le papillon est extrêmement décevant et elle ne se cache pas aussi de cette déception.
Ouais. Revenons à ce texte et plutôt à son contexte. On a évoqué un petit peu la biographie de Maria Sibylla, mais pour l'instant, on ne sait pas où on est. Le Suriname, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas non plus à quel moment on se trouve. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, au XVIIe siècle, au Suriname, et pourquoi est-ce que Maria Sibylla Merian s'y rend ?
Alors, le Suriname, à cette époque, est une colonie hollandaise qui est principalement connue pour la culture du sucre. Alors, nous, professeurs de lettres, on le connaît surtout par Voltaire. C'est à ce prix qu'on mange du sucre, hein, c'est dans Candide et le nègre du Suriname. Ben, c'est au Suriname, voilà.
Dénonciation du commerce triangulaire.
Tout à fait. Donc le Suriname, effectivement, est une colonie qui est surtout exploitée pour le sucre. Mais Maria Sibylla Merian, elle, y va pour les papillons. Et c'est ça qui est original chez elle. C'est qu'elle va se livrer à un voyage scientifique qu'elle va financer elle-même en vendant toutes ses productions avant de partir. Elle va partir seule avec sa fille après avoir divorcé. Et elle a fait un voyage scientifique et ça, c'est vraiment original. Et d'ailleurs, dans sa démarche par rapport aux autres colons, les colons souvent restaient entre eux à l'intérieur de Paramaribo, alors qu'elle s'est aventurée, on l'entend dans le texte, hein, dans la forêt. Et d'ailleurs, c'est assez risqué péril puisqu'elle est tombée malade au bout de 2 ans, sans doute par une maladie qu'elle a attrapée là-bas, puisque les climats étaient assez rude pour les Européens.
Oui, bien sûr. Voilà. Attardons-nous un peu sur la méthode de Maria Sibylla, en particulier le fait qu'elle utilise l'entourage dont elle bénéficie. Cet entourage fait aussi d'Amérindiens, d'esclaves, puisque comme vous l'avez dit, on est dans une colonie sucrière en réalité. On utilise des esclaves qui viennent d'Afrique, mais bon, on utilise aussi le servage des populations amérindiennes locales, comme dans toute l'Amérique latine, qu'elle soit lusophone ou hispanophone. Mais Maria Sibylla n'a pas qu'un rapport d'exploitation à cet entourage, elle a aussi un rapport d'observation attentive et inquiète.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est particulier chez Maria Sibylla Merian, c'est qu'elle va s'appuyer sur les personnes qui l'entourent, donc sur les femmes en particulier qui sont autochtones, soit que ce soit des esclaves qui viennent d'Afrique, soit des Amérindiennes. Et alors les autres scientifiques qui étaient venus au Suriname ou dans d'autres colonies le faisaient également. Mais elle va mentionner dans son œuvre l'aide qu'elle a reçue de la part de ses femmes.
J'aimerais citer un élément de votre dossier qui traite justement de ce point. Il s'agit de l'explication de la planche 45, si je ne m'abuse, où est mentionné l'usage d'une plante dans un contexte assez terrible. Il s'agit ici de la fleur du pan. La plante pousse jusqu'à une hauteur de 9 pieds. Elle produit des fleurs jaunes et rouges. Ces graines sont administrées aux femmes sur le point d'accoucher pour accélérer le travail. De là vient que, dans les colonies belges, les Amérindiennes qui subissent un servage plus dur provoquent, à l'aide de cette plante, un avortement afin d'empêcher la naissance d'enfants qui seraient soumis à un joug aussi âpre que le leur et à une égale vie de servitude.
Alors, lecture vraiment intéressante. On voit que pour ce passage-là, la plante est décrite comme d'habitude, le papillon aussi, mais soit une place presque secondaire. Et finalement, ce qui est au premier plan, c'est la parole des femmes que Maria Sibylla a entendue et qu'elle retranscrit dans son œuvre. Donc, on voit qu'il y avait une écoute de sa part, une prise en compte des connaissances que pouvaient avoir les autochtones.
C'est très intéressant. Je me tourne à nouveau vers Clémence Cogé. Vous dites à un moment, dans ce dossier, qui est très fourni, hein, je l'ai lu du début à la fin, je peux vous dire que, voilà, il est fourni, agréable à lire, bien sûr, parce que richement illustré, bien écrit, mais très fourni. Il faut prévoir 2 heures devant vous. Vous dites à un moment que la contribution de Maria Sibylla à l'histoire des sciences a quelque chose de très novateur, voire révolutionnaire. C'est le terme que vous employez. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Plein de raisons, c'est pour ça qu'on doit les développer. Donc Océane, on parlait tout à l'heure du recueil des données, tu parlais du fait qu'on a l'impression que c'est noté dans un carnet, mais justement elle a tenu pendant 30 ans un carnet qui aujourd'hui a été retrouvé, publié, les aquarelles de Saint-Pétersbourg, où elle décrit depuis ses 13 ans au moins ses observations. Donc le recueil des données c'est quand même assez exceptionnel, cette façon d'élever justement elle-même ses spécimens pour les observer c'est très novateur, et ensuite sa façon de les faire connaître, de les dessiner. Le lien entre cette plante hôte et l'animal, c'est de l'écologie. Hein. Donc on a souvent dit que c'était la première des écologistes. Enfin, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations. Cette préoccupation aussi pour la transformation, ben ça met en cause la théorie de la génération spontanée. Ce qu'elle fait de manière discrète et tranquille, mais en fait, c'est quand même une préoccupation. Enfin, c'est aussi une discussion très ancienne et pour laquelle elle a quelque chose de nouveau à apporter.
Are you leaving the
Alors je crois que c'est pas un hasard si vous êtes un collectif de femmes réunies autour de cette figure de femme de science et d'expression latine, et j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous en avez été amené à travailler sur cette figure.
Oui, donc effectivement, l'originalité aussi de notre travail, c'est que c'est un texte en latin écrit par une femme. Et pour quiconque qui a suivi un cursus de lettres classiques, généralement, les femmes sont les grandes absentes des textes d'études. On a tous et toutes traduit du Cicéron, du César, du Suétone, du Pline, mais il y a rarement des femmes. Alors, si on refait l'historique, comme pour beaucoup de personnes pendant la pandémie, on a trouvé chacun et chacune des occupations. Séverine Clément-Tarantino et moi-même, on s'est retrouvés à fréquenter un cercle en ligne mené par Sky Shirley, qui est une chercheuse américaine et qui s'est spécialisée dans les autrices latines. Et donc, elle nous a proposé chaque soir de lire une autrice latine qui s'appelle Marta Marquina. C'est une poétesse du XVIIe siècle napolitaine qui a écrit des poèmes latins et qui finalement a été invisibilisée. On s'est prises toutes les deux de passion pour les autrices latines en remettant complètement en question en fait l'instruction qu'on avait eue et les textes qu'on avait pu lire pendant notre cursus. Dans le cercle que l'on a fréquenté en ligne, donc il y avait Sky Shirley, puis il y avait Rachel Beskening qui est une autrice qui s'est spécialisée dans Maria Sibylla Merienne. Elle a même écrit un ouvrage qui s'appelle Eruca, la chenille.
En latin ?
Oui, c'est une autrice latine. Voilà, c'est ça.
Vous l'interviewez.
Actuelle, tout à fait. Donc,
à la fin de votre dossier.
Notre dossier, on retrouve une interview dans laquelle elle a gentiment accepté de témoigner de son amour pour la dissertatio. Et donc voilà, donc on a découvert Maria Sibylla de cette façon-là. On a participé aussi à une lecture in extenso de l'œuvre de Maria Sibylla, et quand on a vu l'appel à projet d'Eduscol, on s'est dit que c'était une bonne porte d'entrée, en fait, d'avoir à la fois une femme scientifique qui avait écrit en latin, qui a subi aussi le fameux effet Mathilda, le principe qui consiste à invisibiliser une femme scientifique au profit de ses successeurs masculins ou confrères masculins. Voilà, c'est d'abord et avant tout un projet qui consiste à mettre en avant une autrice latine, et ça fait partie d'un projet qui s'appelle le projet Nota. Alors, en latin, nota, ça veut dire remarque, c'est un impératif, hein, et qui a pour but de proposer des textes écrits par des femmes en latin et de proposer aussi des supports pédagogiques pour permettre aux enseignants du secondaire et du supérieur de les utiliser dans leur classe et finalement refaire l'histoire littéraire.
On peut trouver ces projet pédagogique en ligne, j'imagine.
Oui, oui. Alors, le projet Nota, il est directement accessible en ligne. Il y a déjà quelques autrices qui sont publiées. Et puis, voilà, notre petit groupe a encore beaucoup de travail devant lui.
C'est passionnant comme démarche. Ça explique aussi pourquoi vous vous intéressez à d'autres figures de scientifiques femmes. Je ne sais pas d'ailleurs si elles étaient forcément d'expression latine, vous me le direz. Mais en tout cas, dans votre dossier, vous vous attardez un peu sur les cas de Jeanne Barré et de Léonie Daunet, respectivement naturaliste et ethnologue, on pourrait dire, anthropologue. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces deux femmes et pourquoi est-ce que vous avez voulu en parler ?
Oui, alors on était parti sur des figures féminines scientifiques et puis qui avaient aussi subi le fameux effet Mathilda. Pour ce qui est de Jeanne Barré, donc c'est une exploratrice comme Maria Sibylla Merienne. Elle aussi, elle a fait son tour du monde en fait. Et elle s'est embarquée aux côtés de Commerson, qui était le naturaliste du roi, au moment où Bougainville fait son voyage de découverte. Pour pouvoir l'accompagner, comme c'est une femme, elle est obligée de porter des habits d'homme et de se faire passer pour un homme, pour le valet de Commerson. Cela lui permet de participer à l'expédition, et avec Commerson, qui d'ailleurs, quand il est arrivé sur les terres les plus intéressantes, comme il était malade, pouvait difficilement descendre du bateau, envoyer Jeanne Barré faire les prélèvements et faire finalement le travail de scientifique à sa place. Et donc Jeanne Barré a récolté énormément de spécimens qu'elle analysait, étiquetait avec Commerson ensuite. À un moment donné, on s'est aperçu sur le navire que ce n'était pas un homme qui avait embarqué, mais une femme. Donc, ce qui a posé un certain nombre de problèmes. Bougainville, capitaine de l'expédition, a décidé de laisser Jeanne Barré et Commerson sur l'île Maurice et de poursuivre son périple sans eux. Alors, sur l'île Maurice, ils ont continué à herborisés, hein, c'était des botanistes tous les deux. Commerson est décédé avant de pouvoir revenir en France. Et on doit à Jeanne Barret l'expédition en France de entre 3000 et 5000 spécimens qu'elle a étiquetés et envoyés en France. Alors l'étiquetage est en latin et donc on s'est beaucoup acharné sur cette figure féminine pour lui refuser la possibilité d'avoir écrit en latin, d'avoir même pu distinguer les spécimens les uns des autres et les avoir étiquetés. On a fait même des analyses graphologiques pour savoir si ça pouvait être une écriture féminine. Voilà, c'est pour dire que c'est allé très loin.
Acharnement dont avait été victime aussi Maria Sibylla concernant sa capacité à écrire en latin elle-même.
Ah, c'est ça. Alors que c'est bien à Jeanne Barret qu'on doit l'expédition de toutes ces caisses en fait en France qui ont été ensuite bien utiles. Il faut attendre aussi presque 2 siècles pour que son nom soit à nouveau remis à l'honneur et qu'on donne à nouveau à une plante le nom de Jeanne Barret. Voilà.
Et qu'en est-il de Léonie Daunet ?
Elle aussi une femme exploratrice qui décide de participer à un voyage d'exploration du Grand Nord, du Spitzberg. Finalement, elle manœuvre assez bien pour pouvoir accompagner celui qui sera son mari, le peintre Biard.
On est au début du 19e siècle, enfin presque à la moitié du 19e, 1839, je crois.
Oui, c'est vous avez raison de préciser, c'est une autrice du 19e siècle qui va s'embarquer donc pour une expédition pour le Grand Nord et qui est obligée de rejoindre l'expédition en Norvège parce qu'elle n'avait pas le droit de prendre place sur un bâtiment de la Marine nationale et qui nous a laissé un récit, le voyage d'une femme au Spitzberg, qui est absolument passionnant et qui montre comment une femme peut voir les peuples qu'elle croise.
Vous parlez en particulier, oui, d'une famille de Lapons, donc les Samis en réalité.
C'est ça.
Qui existe encore aujourd'hui, hein, qui est le seul peuple premier vivant sur les territoires européens, en Scandinavie. Et vous décrivez bien la réaction qu'elle a face à ces femmes et qui diffère beaucoup des premières relations qu'ont pu faire les hommes, soi-disant ethnographes de l'époque.
C'est ça. Alors, elle mentionne en particulier un certain Régnard, qui est un auteur du XVIIe siècle, et qui prétendait que les Lapones étaient offertes pour réconforter les voyageurs par leur père ou leur mari. Et elle fait le constat inverse, qu'au contraire, les Lapones sont très pudiques et qu'elles ont beaucoup d'honneur. Et donc, elle en profite pour revenir sur les observations qui ont été faites avant elle par un explorateur masculin. Donc, c'est une façon féminine de vivre le voyage, une attention particulière aux événements et aux personnes qu'elle rencontre.
Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres.
Lors de l'enregistrement au Muséum d'histoire naturelle de Lille, l'équipe de latinistes réunie autour de Maria Sibylla Merianne n'était pas au complet. Il manquait Séverine Clément-Tarantino, maîtresse de conférence à l'Université de Lille. Nous avons donc procédé quelques semaines plus tard à une interview en visio au sujet de sa contribution au dossier Odysseum. Alors, dans le dossier Odysseum que vous consacrez à l'œuvre de Maria Sibylla Merianne, vous terminez ce dossier par une interview avec une écrivaine américaine, Rachel Beth Cumming, qui vit dans le Colorado, parmi les bourdons et les abeilles également qu'elle aime suivre, qui pratique ce qu'on appelle le latin vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Ben merci pour cette question. En effet, il est important qu'on parle de Rachel Beth Cumming. Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. Il était pour nous indispensable, inévitable de l'introduire, de lui faire une place quelque part dans le dossier. Pourquoi ? Parce que c'est à travers elle en fait, qu'on a connu Océane Puchet et moi, tout d'abord, cette autrice, Maria Sibylla Merianne. Et voilà, donc Rachel Cumming avait organisé, c'était encore au temps du Covid et du confinement, elle avait organisé des sessions de lecture hebdomadaires sur Zoom. Et nous lisions plusieurs lectrices, en fait, et latinistes, issues d'un groupe de latin qui s'appelle le Lupercal. Nous avons lu toute l'œuvre de Maria Sibylla Merianne, guidée par Rachel, qui a commencé à se passionner, en fait, véritablement pour cette œuvre et qui a fait, d'une part, un petit livre plutôt destiné aux plus jeunes, disons en latin, on dit compréhensible, qui est quelque chose qu'elle fait par ailleurs régulièrement. Et d'autre part, elle s'est intéressée un peu comme chercheuse et elle a décidé d'entreprendre une nouvelle édition finalement de l'œuvre en latin de Maria Sibylla Merian, parce que jusqu'ici, ce qui a été plutôt fait, ce sont des éditions dans d'autres langues, en anglais, en néerlandais. Mais voilà, le latin lui-même a été plutôt délaissé. Donc voilà, donc il était fondamental de faire une place à celle qui était à l'origine de cette découverte.
Et alors vous-même, vous écrivez en latin, vous utilisez cette langue comme une langue d'expression littéraire?
Oui, c'est ça. Donc en effet, ça commence, il s'agit effectivement d'utiliser le latin comme moyen d'expression, pas tellement en soi, mais plutôt toujours en le liant à une démarche pédagogique. Enfin, voilà, l'idée, c'est plutôt d'essayer de revoir sa propre démarche didactique, sa façon d'enseigner le latin, justement en le pratiquant et en poussant les autres à le pratiquer. Parce que finalement, on acquiert beaucoup plus vite un certain nombre de choses, y compris grammaticales de cette manière. Et voilà, et après, une étape ultérieure que j'ai commencé à franchir, mais encore très modestement, parce que j'ai du travail, c'est effectivement ensuite, pourquoi pas, essayer de travailler cette langue pour produire des textes. Donc moi, j'ai commencé à écrire quelques textes, en effet, qui gardent un caractère pédagogique pour l'instant. Mais voilà, j'adorerais avoir du temps pour pouvoir développer une langue latine plus littéraire. C'est vrai.
Merci Séverine Clément-Tarantino.
Et merci aussi à vos collègues Océane Puch, Clémence Coget et Cécile Dourougier-Gonsalve pour leur participation à ce podcast des Humanités dans le texte consacré à la figure de Maria Sibylla Merian et enregistré depuis le Muséum d'Histoire Naturelle de Lille. Au long de cet épisode, vous avez pu entendre un habillage musical emprunté à une performance live de la claviériste et chanteuse polonaise Ania Rani, performance enregistrée en février 2021 pour la radio polonaise de Varsovie et que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le nom Live from Studio S2. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gayoso, responsabilité scientifique Ankadan. Pour nous quitter, et nous vous avons préparé une surprise qui vous transportera, aidé par les dédales de Carol Beffa, dans l'Italie du XVIIe siècle.
Vous m'avez demandé pour finir de lire un poème, sinon écrit par moi, par une autrice latine, une autre de ces femmes qui ont composé leur œuvre en latin. J'ai choisi une épigramme composée par Marta Marchina, une poétesse qui a composé dans la première moitié du XVIIe siècle en Italie. Pourquoi ce poème? Parce que je crois que c'est un des préférés de Sky Shirley, à qui ainsi nous pourrons rendre un hommage certain. Puisqu'elle est à l'origine la découverte pour nous et pour moi en particulier de la plupart de l'œuvre, sinon de toutes les œuvres écrites par des femmes en latin. Par ailleurs, au cœur de ce court poème, une épigramme écrite en distique élégiaque, il y a un miraculum produit par un animal, et donc même s'il ne s'agit pas d'insectes, ça fera un lien avec le sujet, avec ces animaux merveilleux qui se trouvent au cœur de notre dossier et pour lesquels je suis passionnée, Maria Sibylla Merian. Le protagoniste premier, mais qui en fait passe en second dans cet épigramme, c'est Richard Andria, un Anglais qui est devenu ensuite l'évêque d'Andria en Apulie, en Italie, qui est mort là-bas vers 1200. Voilà, mais donc l'aigle est plutôt au cœur du poème, comme vous allez le voir. Je le lis d'abord en latin. De aquila quae divinum Ricardum episcopum Andriensem alarum umbra in itinere abaes tu defendit. Le titre n'est peut-être pas de la poétesse, hein, donc je le traduis rapidement. C'est au sujet de l'aigle qui protège de la très forte chaleur alors qu'il est en chemin le divin Richard, évêque d'Andria. Et comment le protège-t-il, cet aigle, de l'ombre de ses ailes? Je lis l'épigramme. Aeris in medio pendet regina volucrum, et lent in certo tramite garpit iter, ut sacra garganis cantat, dum culmina montis,
antis test faciem praebiatum praviam, veloces aquila mirari sin aere pennas. Miro regank, sed cum tardius illa volat.
Je donnerai pour finir une traduction relativement improvisée de ce poème. C'est surtout pour en percevoir le sens et pour apprécier la pointe, la chute de cet épigramme. La reine des oiseaux est en suspens au milieu de l'air. Lentement, sur un chemin incertain, elle fait route. Son but est que, pendant que le religieux gravit les 100 sommets du Gargane, son ombre lui procure un trajet plus facile. Tu t'étonnes devant la rapidité du vol de l'aigle dans l'air ? Je m'étonne devant elle aussi, surtout quand je vois cet aigle-là prendre son temps.